Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le cœur en joie que nous vous retrouvons après 2 semaines de pause suite à des travaux dans le studio de Cause Commune. Bienvenue dans votre rendez-vous quasi hebdomadaire qui vous propose 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Les travaux au studio nous permettent notamment d'avoir une nouvelle table en bois côté plateau, c'est-à-dire du côté de l'animation de l'émission et des personnes invitées, et également une nouvelle configuration côté régie. La radio va mettre en ligne quelques photos dans quelques jours ou semaines, mais elles ne peuvent pas vous montrer toute la qualité du travail, il faut le voir de visu. Et pour cela, n'hésitez pas à venir lors de la prochaine soirée mensuelle radio ouverte, vendredi 3 mai 2024 à partir de 19h30 au studio au 22 rue Bernard Dimet à Paris 18e. Passons au programme de l'émission du jour. Retour d'expérience logiciel libre au lycée Carnot de Bruay-la-Buissière avec Romain Debailleul et Pascal Bell. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme en début d'émission la chronique de Jean-Christophe Becquet sur Vélio, un véhicule électrique solaire libre. Et en fin d'émission, l'interview de la musicienne Rose Averti par Joseph Garcia. Soyez les bienvenus, Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Site web de l'émission, c'est april.libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire tout retour, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 23 avril 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion, un podcast à la réalisation de l'émission du jour. Élise, bonjour Élise.
Bonjour Fred, bonjour tout le monde.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Texte, image, vidéo ou base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes. Le Vélio. Le Vélio est un véhicule original, une sorte de vélo cargo à 3 roues. Développé sous licence libre. Son nom est la contraction de Vélo et Helios, en référence au panneau solaire installé sur son toit pour l'assistance électrique. Andreas Livet lui a consacré une dépêche très détaillée sur Linux FR, grâce à laquelle j'ai pu découvrir à quel point le Vélio coche de nombreuses cases pour accéder au statut de pépite libre. Bien sûr, l'intégralité des plans et documents d'assemblage sont partagés sous licence libre. Comme pour la Braille Rap, l'imprimante Braille à laquelle j'avais consacré ma chronique en février 2023, le Vélio est sous licence CERN Open Hardware License, une licence copyleft pour le matériel libre proposée par le Centre européen pour la recherche nucléaire de Genève. Grâce à cette licence libre, vous pouvez utiliser librement tous les éléments du projet pour construire votre propre Vélio. Il existe aujourd'hui 2 versions du Vélio, le Vélio original à acheter et le Vélio Tech à construire soi-même. Vous pouvez le modifier pour l'adapter à vos besoins, à condition de conserver la même licence pour les nouvelles versions. Lorsque le Vélio sera homologué, des entreprises pourront l'assembler et le commercialiser. Mais la démarche de Vélio va encore plus loin. Par exemple, dans le choix des outils utilisés pour sa conception. En effet, si la première version avait été modélisée avec un logiciel privateur, des efforts importants ont été consentis pour libérer toute la chaîne de conception, depuis la modélisation des pièces avec le logiciel libre FreeCAD, jusqu'à la génération de la notice d'assemblage avec Sphinx, à partir de textes écrits au format Markdown. De plus, l'équipe géographiquement répartie c'est doté d'outils collaboratifs libres tels que Nextcloud pour le partage des fichiers et Git pour le contrôle de version. Vélio est porté par l'association Vélo Solaire pour tous, qui prône les valeurs du libre et du collaboratif. Le projet a remporté le premier prix de l'extrême défi de l'ADEME, afin d'en encourager de nouvelles utilisations de déplacement en remplacement de la voiture pour les déplacements du quotidien dans les territoires périurbains et ruraux. Les projets candidats à l'extrême défi doivent être documentés de manière ouverte sur le wiki de la Fabrique de mobilité. L'association Vélo solaire pour tous rassemble une large communauté de contributeurs et contributrices. Elle recherche des financements et des partenaires pour son homologation, sa fabrication et sa commercialisation en conservant les fondamentaux de l'association, un commun libre et ouvert, une fabrication en circuit court, une dimension sociale et solidaire. Plusieurs projets ont déjà vu le jour. Plusieurs projets dérivés, ont déjà vu le jour. Et je vous renvoie à la dépêche sur Linux.fr pour constater à travers quelques photos à quel point le Vélio est un projet concret et vivant.
Ben merci Jean-Christophe. On va préciser que Vélio, ça s'écrit V-H-E-L-I-O. Donc le site web du projet, c'est velio.org. Évidemment, toutes les références que tu as citées, dont l'article Linux.fr, est à retrouver dans la page consacrée à l'émission du jour. Donc soit sur le site de causecommune.fm dans la page de l'émission Libre à vous, soit directement sur libreavous.org/206. En tout cas, c'est encore une belle découverte que l'on doit à Linux.fr, qui est un site d'actualité autour du logiciel libre. Donc c'est Linux.fr.org.
Tout à fait, et Linux.fr est un site toujours en activité, toujours vivant, et j'ai plaisir régulièrement à le consulter pour y trouver des actus, des infos et des pépites libres.
Exactement. Mais écoute, merci Jean-Christophe, je crois qu'on se retrouve pas en mai mais en juin 2024, sans doute pour la dernière chronique de la saison.
Tout à fait, rendez-vous au mois de juin.
Eh bien, belle journée à toi, à bientôt.
Bonne fin d'émission, à très bientôt.
Merci, nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous abandonnerons notre sujet principal qui portera sur un retour d'expérience logiciel libre au lycée Carnot. En attendant, nous allons écouter Happy Sadie par Loyalty Freak Music. On se retrouve dans 2030. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Happy Sadie par Loyalty Freak Music, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur le retour d'expérience logiciel libre au lycée Carnot de Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais avec Romain de Bailleul et Pascal Bell, tous les deux professeurs NSI, numérique et sciences informatiques, mathématiques. Alors, visiblement, ils se sont connectés vu le bruit que j'entends. Alors, ce qui est marrant, c'est que lors d'été, ça n'avait pas du tout ce bruit-là. Est-ce que vous nous entendez ?
Alors, nous, on t'entend très bien.
Ouais, alors là, vous avez changé quelque chose par rapport à tout à l'heure, parce que là, on a un super bourdonnement dans l'oreille. Mais bon, on va faire avec, hein.
On a débranché un truc. Mais alors, est-ce que, attends.
Là, c'est mieux, ne touchez plus à rien.
C'est mieux, là?
Ah oui, ne touchez plus à rien, merci.
Eh ben, j'ai trouvé, c'était mon téléphone.
Voilà, ok. En fait, c'est heureusement que vous n'êtes pas des utilisateurs d'exercice qui disent, oh, j'ai touché à rien, entre le test et la production. En tout cas, n'hésitez pas, les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à participer à notre conversation. Vous pouvez nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou encore sur le site directement libreavoue.org. Il y a une zone de chat qui s'affiche. Donc, on va parler donc de logiciels libres au lycée donc Bruay-la-Bruissière dans le Pas-de-Calais. Un petit retour d'expérience d'un projet absolument formidable. Et on va commencer. Alors, je précise que donc Romain de Bailleul et Pascal Bell sont tous les deux donc dans leur salle de cours dont on va parler. Et on va commencer par une petite question de présentation personnelle rapide. On va commencer par Romain.
Alors bonjour, moi je m'appelle Romain de Bailleul, je suis professeur au lycée Carnot de Bruay-la-Buissière, tu l'as dit. On est professeur, alors moi je suis professeur de mathématiques et de NSI. La NSI, c'est la nouvelle spécialité informatique du bac général.
Pascal.
Oui, bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Libre à vous. Et moi j'enseigne aussi la nouvelle spécialité NSI dans le bac général, mais aussi j'interviens aussi dans le bac technologique, en STI 2D, dans la spécialité SIN, Système d'Information et Numérique.
Voilà. D'accord. Alors NSI c'est Numérique et Sciences Informatiques. Alors après la présentation personnelle rapide, on va présenter aussi peut-être le contexte, parce que bon, le lycée Carnot de Bruay-la-Buissière, dans le Pas-de-Calais, ça ne dit pas forcément grand-chose en termes de nombre d'élèves, nombre de profs, nombre d'ordinateurs. Donc, est-ce que l'un de vous deux veut nous présenter rapidement ce lycée Carnot ?
Oui, alors je vais m'y coller. Le lycée Carnot, c'est un gros lycée du bassin. On a plus de 1600 élèves. Hein. On est entre 1600 et 1700 élèves, 150 profs. Donc, on a vraiment un établissement qui est prégnant sur le secteur. On a toutes les sections. Ça, du professionnel jusqu'au bac général, en passant par le technologique. On a aussi du BTS. Donc vraiment, on peut dire qu'on a une grande représentativité au niveau des sections d'enseignement. Au niveau de la population, je ne sais pas si je peux enchaîner.
Oui.
On est dans un bassin où la population est assez mixée. Nous, en termes d'éducation, on parle d'IPS. Alors, je ne vais peut-être pas faire des choses trop techniques, mais il faut savoir qu'on a...
C'est-à-dire quoi, IPS ?
Alors, l'IPS, c'est l'indice de position sociale.
D'accord.
C'est ce qui indique si les familles sont en difficulté financière ou pas.
Ok.
Bon, on a un IPS qui est assez bas, la population est mixée, mais c'est vrai qu'on a quand même un paquet de familles qui est en difficulté financière, hein. On ne peut pas le dire autrement. Hein.
D'accord. Donc,
historiquement, une région minière.
Oui, tout à fait. Ouais. Ok. J'ai juste précisé, parce que tout à l'heure, dans l'introduction, Pascal a parlé de STI 2D. STI 2D, ouais. C'est le bac, donc sciences et technologies de l'industrie du développement durable. Voilà.
Parce que, c'est ça.
On nous posait la question, Marie-Odine nous posait la question sur le salon web. Donc, je salue d'ailleurs les personnes qui sont sur le salon web. N'hésitez pas à poser des questions ou faire des remarques, je les relayerai. Donc, 1600 élèves, combien de profs? 170 profs, c'est ça?
C'est ça, oui.
Et au niveau ordinateur, vous avez combien d'ordinateurs?
On a un parc machine d'environ 800 ordinateurs qui sont connectés au réseau.
Ok, d'accord.
Et sinon, on a deux salles qui sont dédiées purement à l'informatique et qui sont accessibles à tous les enseignants, sur réservation. Donc, deux salles qui fonctionnent uniquement sous Windows. Et on a ouvert, nous, la troisième salle qui, elle, est entièrement sous logiciel libre et accessible aussi à l'ensemble de la communauté éducative du lycée.
D'accord, on va y revenir. Juste une petite question, 800 PC, ordinateurs pour 1600 élèves, 170 profs. Alors j'ai du mal à imaginer, est-ce que c'est beaucoup d'ordinateurs? Est-ce que c'est peu par rapport à, on va dire, une moyenne?
On est assez bien doté au niveau informatique. Oui, oui, on a une dotation qui est intéressante, mais il faut savoir qu'en fait, la passerelle technique a besoin de plus de machines. Il y a peut-être plus de machines au niveau des bacs technologiques qu'au niveau des bacs généraux.
Oui, ok. D'accord, donc là on voit un peu plus la présentation de ce lycée des personnes qui sont dessus. Avant de commencer à faire un peu le retour d'expérience et puis la question sur le début de l'expérience, en tout cas du projet logiciel libre au lycée Carnot, vous à titre individuel, depuis quand utilisez-vous, donc soit à titre personnel, soit à titre professionnel, des logiciels libres? Quand est-ce que vous avez commencé, Romain?
Alors, en ce qui me concerne, moi je viens de. J'ai 48 ans, je viens un peu de la scène alternative Atari, Amiga quand j'étais plus jeune. Donc j'ai toujours connu un petit peu l'alternative à ces modèles Apple et Microsoft. Je connaissais que Microsoft que dans les établissements scolaires. Et puis dès que, on va dire que les logiciels libres, surtout via le système d'exploitation Linux, est arrivé, je m'y suis collé. Donc fin des années 90.
D'accord, et Pascal.
J'utilise que,
oui,
moi, j'utilise que ça, hein, vraiment. Moi, j'essaye de. Il y a plus de Windows à la maison. Hein. J'y ai mis tout le monde, hein, ma femme, ma mère, ma belle-mère, tout le monde y a eu droit. Hein.
Ok. Et bon, de ton côté, Pascal?
Ouais, moi, en ce qui me concerne, c'est un peu différent, puisque, comme tout élève et enseignant, j'étais biberonné à Windows toute ma carrière. Et en fait, je suis venu au logiciel libre par l'intermédiaire des nanocalculateurs de type Raspberry Pi.
Donc c'est des tout petits ordinateurs pour présenter.
Voilà, c'est des ordinateurs qui ont un format carte de crédit à peu près. Voilà. Et donc ça a daté, ça fait une dizaine d'années quoi. Et donc comme le système d'exploitation qui tourne sur ces nanocalculateurs est un dérivé de Debian, moi, je suis venu au logiciel libre par l'intermédiaire de mes projets en fait. Que j'ai développé.
D'accord. Alors Debian, c'est un système d'exploitation libre. On a déjà parlé dans l'émission, donc n'hésitez pas à aller sur libravou.org ou sur causecommune.fm et chercher Debian pour en savoir plus. Je précise que donc vous avez des petits messages personnels qui arrivent sur le salon web, donc je vais les relayer. Donc notamment, il y a quelqu'un qui nous dit, alors le pseudo c'est Hfoutri, donc je sais pas si c'est un prénom, un nom, qui dit en tout cas voilà, si Romain peut faire un petit coucou à la nouvelle association Les Ordis du Cœur, réemploi d'ordi avec logiciel libre à destination des plus démunis, accompagnement aux usages. Je crois qu'on a prévu d'en parler à un moment ou un autre dans l'émission.
Oui, on travaille, on a tissé des liens avec le milieu associatif du secteur et bon, c'est Henri Foutry en l'occurrence, le pseudo. Il vient de créer une association, il fait la même chose que ce qu'on fait au lycée, mais il le fait dans le cadre d'une association. Il récupère donc ses machines, on en parlera tout à l'heure, j'imagine.
Voilà, on en parlera tout à l'heure. Hein.
Voilà, et lui, il est dans le milieu associatif, il n'est pas enseignant, mais il a une formidable association, un investissement un peu sans faille comme nous.
D'accord. Donc c'est assez proche que ce, pour les personnes qui écoutent régulièrement l'émission, ça doit être assez proche de ce que fait Antanac, qui sont nos voisins
c'est
et
ça.
Voisines,
voilà.
Au 18 rue Bernard Dimet, donc qui récupèrent des ordinateurs et les réinstallent, les remploient avec du logiciel libre et à disposition d'un public défavorisé.
Mais, c'est complètement ça.
Voilà, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, donc merci déjà pour cette présentation et encore une fois, les personnes qui sont sur le salon web, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, je pourrais les relayer. Alors, on va commencer par la première grande partie, entre guillemets, c'est les débuts des projets avec plusieurs questions, voilà, quand ça a commencé, pourquoi, comment, pour qui. Mais je vais commencer peut-être par lire l'objectif que j'ai lu sur le site, alors sur lequel vous référencez, vous documentez vos pratiques. Parce que non seulement vous avez des pratiques logicielles libres, mais en plus vous les documentez. Donc le site c'est mat-code.fr, mat avec un S. Et je lis « Aider et inclure tous les élèves par un numérique citoyen, durable et responsable ». Donc question, quand ce projet a commencé, quel était l'objectif? Et qu'est-ce que vous mettez derrière cette phrase que je viens de lire, notamment « numérique citoyen, durable et responsable » ?
Alors, l'origine du projet, le jeudi 19 mars 2020, quand on nous a annoncé le confinement strict, du jour au lendemain, on a dû continuer notre progression pédagogique de manière distancielle avec tous nos élèves. Donc Romain et moi, depuis que je travaille en STI2D et que j'ai développé mes projets avec mes nanocalculateurs, j'en achète tous les ans. Et donc j'avais un tas d'ordinateurs à disposition. Et on a donc convoqué tous les élèves qu'on avait en responsabilité pour leur fournir au moins le matériel pour pouvoir travailler. Donc le jeudi et le vendredi, les deux derniers jours, là, juste avant qu'on ferme, tous nos élèves, on leur a donné une Raspberry, un clavier, une souris. Et à côté de ça, on avait le site matcode.fr sur lequel il y avait nos cours, et puis un chat, et puis... donc ils avaient aussi bien la partie matérielle que la partie logicielle à disposition, et ça nous a effectivement donné un certain confort, entre guillemets, bien sûr, hein, de continuer cette progression pédagogique de manière distancielle, avec des élèves qui, on s'est bien rendu compte rapidement que dans d'autres sections, les élèves n'avaient qu'un téléphone pour travailler, et c'était compliqué de pouvoir travailler au moins correctement, quoi.
Parce que je suppose que comme dans beaucoup de familles, il y avait relativement peu d'ordinateurs ou un ordinateur par famille. Donc quand il y a plusieurs personnes dans une famille par définition, bah c'était compliqué. Et donc l'idée c'était aussi de ne pas laisser, donc si je comprends bien, enfin si je suppose, de laisser finalement la main à tous les services qui se sont développés à ce moment-là, les services privateurs hein, tels que Zoom et autres, et d'offrir une alternative respectueuse des données personnelles aux élèves, c'est ça?
C'est ça, oui, complètement, oui.
Donc ça vraiment, donc finalement ce projet est même très récent, parce que finalement on est en 2024. Quand on va voir tout à l'heure l'état des lieux où vous en êtes aujourd'hui, c'est vraiment très court tout ce que vous avez fait. Et donc vous avez commencé comment en fait, parce que vous êtes parti d'un existant déjà au lycée ou pas, où il y avait vraiment pas du tout d'existant logiciel libre au lycée?
Alors, on faisait un petit peu comme tout le monde, je veux dire, alors peut-être un petit peu plus, mais on a tous, quand on est enseignant, une idée sur le logiciel libre. Enfin, j'y reviendrai, c'est pas toujours connu, mais on trouve toujours des enseignants qui utilisent des logiciels libres, mais c'est chacun dans son coin, de façon isolée. Nous, on faisait un petit peu ça, on présentait ce qui existait, et c'est vrai que ces Raspberry qu'on a donné ou les ordinateurs reconditionnés, ça a été un levier formidable, parce que les élèves, ils pouvaient installer les logiciels, il n'y avait pas de contrainte de coût, il n'y avait pas de contrainte de licence. Ils nous envoyaient un petit message, « Monsieur, ce logiciel-là n'est pas installé. » Eh ben, installe-le, hein, tu vas pas avoir de difficulté. Hein, tu utilises le logiciel qu'on t'a montré, tu tapes le nom, hop, le logiciel, il est installé. On a vraiment trouvé que c'était un levier formidable à l'époque, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait pas laisser les choses comme ça. On a un levier extraordinaire en éducation que sont ces logiciels libres. Et puis, en fait, chacun travaille de façon séparée, dans son coin. C'est pas connu. Et puis surtout, parfois, c'est même tourné en dérision. Hein, on a quand même des gens qui nous disent « ça marche pas ce que vous faites ». Donc on a eu deux objectifs quand on est parti là-dessus, c'est bien sûr aider, inclure les élèves, hein, c'est en ça que c'est inclusif, et puis après acculturer l'ensemble de la communauté éducative à tout ça, parce que l'idée c'était de pas laisser ça isolé.
Et comment ont réagi vos collègues, par exemple, sur ce... Parce qu'à l'époque du Covid, tout le monde a un peu improvisé, en fait. Il faut être tout à fait clair, autant dans les familles que dans les profs, quoi. Et donc, par rapport à cette démarche que vous avez eue, comment ont réagi vos collègues, les profs?
À l'instant T du Covid, on a eu diverses réactions. On a eu une dizaine de collègues qui nous ont immédiatement suivis. Mais bon, on est un lycée de 150 professeurs. Hein. Et puis les autres, chacun est parti un petit peu avec sa solution. Hein. Il y a eu du Zoom, il y a eu du Discord, il y a même eu du Facebook. Donc à l'instant T, on peut dire qu'on a été suivis en partie. Mais c'était les gens qui étaient peut-être déjà acculturés à ça. Les autres ont eu peur, tout simplement. Hein. Ils dramatisaient vraiment les logiciels qu'ils ne connaissent pas.
D'accord. Et encore une fois, là, il n'est pas question du tout de critiquer ce qui a pu être fait à l'époque, parce que tout le monde a fait fonction des moyens disponibles. Vous avez parlé de salle informatique tout à l'heure. Est-ce que déjà à l'époque, dans la salle informatique, il y avait des ordinateurs qui étaient avec du logiciel libre, ou à l'époque, ça n'existait pas encore?
Non. On avait deux salles d'informatique entièrement sous Windows, et avec des ordinateurs qui deviennent de plus en plus lents, hein, dans leur utilisation. Il y a plein d'utilisateurs, il y a plein de profils sur tous ces postes. Et franchement, c'est un peu compliqué.
Ce qu'on peut déplorer dans ce qui se passe, hein, on peut faire, hein, d'ailleurs ça nous a souvent été dit, on peut faire du logiciel libre sous OS propriétaire, même si moi j'ai toujours une petite phrase là-dessus, c'est qu'acculturer le logiciel libre sous OS propriétaire, c'est un peu comme faire une cure de désintox dans le camping-car de Breaking Bad. Hein. Je pense que l'OS propriétaire, il finit toujours par ramener les gens vers ses logiciels. Hein, en ce sens-là, c'est pas une bonne idée. Mais bon, on peut faire du logiciel libre, mais alors, nous, les masters qui arrivent au lycée, hein, c'est-à-dire, ce sont les images des systèmes Windows qui arrivent au lycée, ils sont pas actuellement, en tout cas pour notre région, ils n'étaient pas prêts à ce moment-là pour présenter convenablement les logiciels libres. C'était même parfois contre-productif, parce que, à titre d'exemple, Firefox était livré avec, non configuré pour le proxy, hein, c'est-à-dire l'ordinateur qui filtre les échanges avec l'extérieur, donc il fonctionnait pas. Donc c'était même contre-productif parce que les gens disaient « bah Firefox, t'as vu, Firefox, il fonctionne pas, hein, je veux aller sur Internet, ça ne marche pas ». Donc c'était vraiment une situation qui était un petit peu catastrophique. Hein.
D'accord. Alors, une question, alors je ne sais pas comment ça marche exactement dans votre lycée, mais il y a souvent un accompagnement technique. Alors, soit c'est dans le cas d'un lycée, ça peut être la région ou un service institutionnel. Donc, au niveau technique, comment vous êtes aidé et par qui? Et comment ont réagi les services techniques? Ces services ont été un peu frileux par rapport à l'utilisation de logiciels libres, notamment pour des questions peut-être de compatibilité avec des outils privateurs. Voilà. Comment vous êtes aidé en termes techniques et comment ont réagi ces services à ce moment-là?
Ah ben nous, on a démarré par ce qu'on appelle du shadow IT. Hein.
C'est-à-dire c'est quoi ça?
Ah ben, shadow IT, on a fait de l'informatique dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on a...
Sans prévenir, quoi.
Sans prévenir. Moi, j'ai formaté les Windows qu'il y avait dans la salle informatique et j'ai installé du Linux partout. Je sais qu'il y a des collègues qui le font dans leur établissement. Hein. C'est-à-dire, on a eu un non formel, la toute première fois, on a eu un non formel. C'est-à-dire, vous ne faites pas ça.
Oui, c'était le sens de ma question, parce que j'imagine bien que la première réaction doit être, effectivement, continuer comme on faisait avant et surtout ne changez pas.
C'est ça. On ne change pas les pratiques qui fonctionnent.
Qui fonctionnent ou qui fonctionnent à moitié, mais en tout cas, ils ont l'impression qu'elles fonctionnent. Donc, la première des choses, on en parlera après, hein, mais c'est d'avoir le soutien de sa direction, déjà.
Ah, mais on peut en parler tout de suite, parce que finalement, on est au début du projet, donc au niveau du confinement. Donc, le service informatique... Alors, le service informatique, c'est quoi? C'est la région qui gère ça? C'est une...
Alors, il faut savoir que chaque établissement a un référent au niveau de la collectivité. Les écoles primaires, ce sont les mairies. Mmh. Les collèges et les lycées... le collège, c'est le département, et les lycées, ce sont les régions. Et là, il y a un DSI qui chapeaute un petit peu...
Direction des systèmes d'information, DSI.
Voilà, c'est ça. Directeur des systèmes d'information qui chapeaute un peu la façon dont on doit utiliser les logiciels. Et c'est un vrai frein, parce qu'on a de moins en moins la main là-dessus.
C'est eux qui gèrent les infrastructures.
Oui, tout à fait. Enfin, ma femme est enseignante et effectivement, il y a des choses qu'elle peut, enfin, elle peut pas faire grand chose au niveau informatique parce que justement, c'est la DSI qui dirige, qui décide de tout, quoi. Donc, si je comprends bien, au démarrage du projet, la direction des systèmes d'informatique était plus que frileuse ou plutôt elle vous a dit non. Mais, et quelle était la réaction de la direction, enfin, au niveau de la personne qui est responsable du lycée? Quelle était la réaction aussi du rectorat? Je suppose que le rectorat
Pour être exact, on n'a pas eu un non formel de la DSI, parce que nous, on a d'abord parlé à notre chef d'établissement, qui à l'époque n'a pas souhaité donner suite. C'était d'abord le chef d'établissement. La DSI, ça a été beaucoup plus long parce qu'on a envoyé des mails pendant longtemps, on a essayé de les contacter, ça a été très long de pouvoir les toucher, en fait.
D'accord. Et le chef d'établissement, comment il a réagi alors?
Le chef d'établissement était très très frileux parce qu'il avait peur qu'il y ait un problème. Il connaissait pas. Le problème, il est là. Il ne connaissait pas. Il a dit, écoute, c'était même encore plus compliqué que ça parce qu'il a convoqué notre agent informatique et puis ils en ont conclu que c'était pas une bonne idée à deux, sans même nous en parler.
D'accord.
Donc, voilà. Et nous, on peut pas aller au-delà de la hiérarchie. Hein, et c'est là où c'est très compliqué. Ça sera l'un des premiers conseils qu'on va donner. C'est embarquer en expliquant bien et en mettant en avant les avantages de ce projet si vous voulez avancer parce qu'il faut convaincre la direction de l'établissement en premier lieu.
Alors justement, pour que je sois sûr de comprendre, parce que je ne suis pas tout à fait sûr. Donc effectivement, la direction était frileuse, mais vous êtes quand même lancé. Oui. Donc est-ce que vous êtes lancé en prévenant la direction, en disant « bon, on va assumer les risques, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes, on va faire le support », ou est-ce qu'en fait vous êtes lancé, c'est-à-dire que vous avez fait ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'installation, sans vraiment prévenir personne et en espérant que ça marche?
Pascal le faisait déjà un peu avec ses Raspberry. Hein. Donc il avait déjà des Raspberry qui étaient intégrés au réseau d'établissement. Donc on ne s'est pas trop posé de questions. Et puis voilà. Hein. De toute façon, le risque, c'est ce sont des montées et descentes d'images sur les machines. La machine ne fonctionne plus, on redescend l'image Windows. Ça se fait, pour dire les choses simplement, ça se fait par un appui sur F12. L'image est redescendue au bout de 5 minutes. Hein. Donc,
ce que vous appelez l'image, précise ce que tu appelles l'image pour les gens qui nous écoutent.
Alors, l'image, c'est le système d'exploitation qui est enregistré sur un serveur. Donc, c'est le système d'exploitation tel qu'on le réinstalle quand on appuie sur F12 ici dans notre lycée ou quand on fait une redescente sur les PC du lycée. Donc, c'est vraiment le système d'exploitation.
D'accord.
Tel qu'elle est stockée.
Ok, d'accord. Donc là, on a parlé de la réaction de la DSI. Alors, je fais juste signe en fait à Joseph qui va faire l'interview du sujet principal, qui peut s'installer et mettre son micro, enfin son casque s'il veut nous écouter. On a parlé de la réaction donc de la direction du système d'information. Mais comment ont réagi les élèves et les familles quand vous leur avez parlé de ce projet et quand vous avez commencé à les équiper en nano-ordinateur?
Bah, l'équipement en nano-ordinateur, ça a été la période de confinement.
Oui.
Et ensuite, en fait, suite à cette expérience, voilà, on a développé ce projet Nerd pour essayer d'étendre ceci à non seulement notre communauté éducative, mais plus généralement, maintenant on est en train de ramifier vers d'autres établissements.
Alors, les familles et les élèves étaient convaincus, on a eu un retour hyper positif de ce qui s'est passé là, ça je pense qu'il faut le dire, ils ont été convaincus. Et ils se sont dit, bon c'est ça Linux, c'est ça les logiciels libres, mais franchement pourquoi on nous a pas parlé avant? Pourquoi on a des logiciels qui sont comme ça et on n'est pas au courant? Ils nous ont dit qu'il y avait un problème en fait, clairement.
D'accord. Juste avant de continuer, j'ai précisé, Pascal vient d'employer l'acronyme NERD, c'est N-I-R-D, c'est numérique, inclusif, responsable et durable. C'est un peu le nom de code de votre projet, c'est ça?
Voilà, c'est ça, avec un petit jeu de mots, tu l'as compris.
Oui, voilà, mais on va pas l'expliquer, mais effectivement, c'est pour ça que j'étais un peu surpris de la prononciation, mais je comprends la prononciation maintenant. Donc les élèves étaient ravis et... Tout à l'heure, tu parlais, je ne sais plus si c'était Romain ou Pascal, parlait d'acculturation. Oui. Donc, au-delà de l'usage, est-ce que dès le départ, vous avez commencé à les acculturer sur ce qu'était le logiciel libre, ce qu'était le partage de connaissances, etc. Ou vous en êtes resté, au début, uniquement à l'usage?
Moi, en ce qui me concerne, c'était plutôt le côté développement durable que j'ai initié à mes élèves. Utiliser des nanocalculateurs, c'est très peu énergivore. Financièrement, ce sont des ordinateurs à bas coût. Eben Upton, qui est à l'origine de ce projet Raspberry Pi, et qui est enseignant en informatique à Cambridge, il nous a donné un outil qui, aujourd'hui, nous permet de développer des projets avec des calculateurs relativement puissants sous logiciel libre et donc sous aucune contrainte de logiciel ou de matériel.
C'est surtout, je crois, il ne faut pas opposer, on parle d'acculturation et d'usage, mais en fait l'acculturation, elle ne peut venir que de l'usage et on a fait de l'usage et l'acculturation elle est passée par là, parce que il ne faut pas être dogmatique, ça c'est un vrai problème. On rencontre parfois dans le logiciel libre des gens qui font des injonctions, c'est bien, utilise ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, non, ça fonctionne pas, surtout avec des élèves. Il faut mettre les avantages en avant et puis faire essayer, y compris avec nos collègues, parce que ça n'allait pas non plus sans nos collègues. On ne peut pas, on peut pas acculturer les élèves au logiciel libre si on n'embarque pas nos collègues profs avec nous. En ce sens-là, d'ailleurs, on a réalisé plusieurs formations. Les collègues étaient ravis quand ils comprennent ce que c'est et qu'ils voient surtout que ça fonctionne très bien. Mais ils sont ravis et c'est eux qui nous aident maintenant et qui en parlent. Donc, l'acculturation, elle est vraiment venue par l'usage.
Donc, je rebondis sur ce que tu viens juste de dire avant sur la formation de tes collègues. Donc, dès le départ, en fait, votre stratégie a été d'expliquer à vos collègues ce qu'est le logiciel libre, les usages, et de leur faire des formations pratiques, c'est-à-dire à des outils vraiment dédiés par rapport à leurs besoins en tant que prof vis-à-vis des élèves, c'est ça?
Ouais, complètement. J'ai une collègue qui a eu cette phrase magnifique. Elle m'a dit, après avoir utilisé, alors elle est venue dans cette salle, on est là avec Pascal, on est dans la salle qui est complètement, on a 20 postes sous Linux, 100% logiciel libre. Ils sont venus ici, elle nous a dit, à quelle heure on démarre la formation? Alors au bout de 2 heures. Parce que là, c'est pas très compliqué ce qu'on fait. Quand est-ce qu'on va apprendre plus de choses? Je dis, non, ça y est, tu utilises. Et elle m'a dit, en fait, la formation à donner, c'est surtout dédramatiser. Parce que moi, je pense qu'en 2024, il ne faut pas plus de compétences pour utiliser Linux que Windows. Et ça, les collègues s'en sont bien aperçus.
D'accord. On sait quand même que les profs sont quand même des personnes très occupées. Ces formations, c'était quoi? C'était sur le temps de travail? C'était sur un hors temps de travail?
Alors, nous, au lycée, il y a quelques journées qui sont off, on va dire, au mois de juin. Entre 2 jurys et 2 épreuves de bac, on a quelques journées un peu off où, d'habitude, on avait des réunions pédagogiques. On a profité de ces journées pour faire des réunions logiciels libres.
Formation.
D'accord.
Et on a réussi à en faire inclure des réunions officielles par la suite. Maintenant, on a été quand même intégré à la formation officielle.
OK. Donc maintenant, entre guillemets, la direction, rectorat, tout ça, vous soutient?
Voilà, vous êtes connu. La DRAN nous soutient, oui.
D'accord.
Oui, okay. On a mis un gros travail là-dessus, franchement, au niveau de la visibilité, parce que j'ai coutume de dire dans ce projet, si on bouge pas, on est mort. Parce que comme on est un peu alternatif, si on fait pas de bruit, on a tendance un petit peu à nous écarter. C'est pas toujours volontaire, il n'y a pas d'acte de malveillance, mais c'est comme ça.
D'accord.
Voilà, donc nous, on a fait beaucoup de bruit, on est connu à tous les niveaux. On a rencontré notre communauté de communes, on a rencontré les parents d'élèves, on a rencontré l'inspection. On a rencontré la DRAN. La DRAN, c'est la direction du numérique éducatif au niveau régional. Et puis, assez rapidement, on a pris contact avec le ministère. On a eu un bon petit coup de main de Bastien Guéry, qui nous a aidés au lancement, et puis il nous a orientés vers Alexis Kaufmann, qui soutient le projet à la DNE, puisqu'il est arrivé chargé de mission à la DNE.
Alors, Bastien Guéry donc, est à la direction du numérique, c'est la mission logiciel libre donc, de la DINUM, Direction interministérielle du numérique, voilà, et Alexis Kaufmann, alors son poste officiel à la Direction nationale de l'éducation, du numérique éducatif, je ne sais plus exactement c'est.
Alors, il est chargé de mission logiciel libre et mixité.
Voilà, exactement. Voilà, Alexis Kaufmann, donc deux personnes qui vous ont aidé. Le démarrage, donc, c'est le confinement. Quelles ont été ensuite les étapes que vous avez mis en place pour, comme tu le dis, en fait, faire du bruit, puis avancer aussi, montrer que... Quelles sont les étapes ensuite, les grosses étapes du projet?
Les deux premières années, on a envoyé au bas mot 400 mails.
À qui?
On a vraiment tapé partout dans les collectivités, et d'ailleurs il y en a un qui a très bien, alors dont Bastien Guéry, moi je le connaissais pas, Bastien, je l'avais peut-être entendu dans Libre à vous, Bastien, mais
oui, il est intervenu deux fois déjà.
Et oui, et merci Libre à vous. Et on a matché avec un député de Vendée, en l'occurrence le député Philippe Latombe, qui nous a répondu. Oui. Je m'y attendais pas. Sa collaboratrice Catherine, que je remercierai jamais assez, nous a recontacté. Et Monsieur Latombe, on l'a rencontré à Lille. On est allé avec notre chef qui nous soutenait. Alors notre proviseur suivant, il nous a soutenu à 200%. C'est là où l'affaire a été lancée. Là, ça a été parti. Et notre proviseur actuel à 300%. Donc là, on est vraiment sur le tremplin. Mais pour terminer, que Philippe Latombe, il nous a vraiment ouvert des portes parce qu'il nous a donné un peu son réseautage et son carnet d'adresses. Il nous a présenté Monsieur Frédéric Motte, qui est un élu régional ici. Là, c'est vrai que ça tourne un peu politique, mais ça a été indispensable dans notre démarche.
D'accord. C'est des démarches de faire connaître le projet pour éventuellement.
Au niveau politique.
Pardon?
Voilà. Y compris au niveau politique.
Oui. Et alors, c'est pour un soutien politique, mais je suppose aussi que c'est pour essaimer et inspirer d'autres structures dans d'autres régions.
Ah, complètement. Ouais. Notre but, c'est vraiment de faire de notre établissement un exemple innovant. On a écrit.
D'accord. Ok. Alors, on va faire une pause musicale. Je vous avais dit, le temps passe très vite, et on reviendra sur le sujet de l'évolution pratique de ce que vous avez fait dans le projet juste après. Donc, on va faire une pause musicale de 3 minutes. Nous allons écouter Extrêmement PD de toi par Rose Azerty. On se retrouve donc dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. Je suis extrêmement pété de toi. T'as des boulets à 100 à l'heure et puis t'as drifté devant moi. Je suis extrêmement pété de toi. Peux-tu sortir de ta bagnole, il faut que j'établisse ce constat. Tu dis tes termes et je réponds oui oui.
Nous sommes de retour au studio. Nous venons d'écouter Extrêmement PD de toi par Rose Azerty, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0. Et Rose Azerty sera tout à l'heure dans le studio pour une courte interview.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors, nous allons continuer notre discussion donc concernant le retour d'expérience logiciel libre au lycée Carnot de Bruel-Labuissière dans le Pas-de-Calais avec nos deux invités profs au lycée, donc Romain Debailleul et Pascal Bell. N'hésitez pas, si vous nous écoutez, vous voulez intervenir pour une question, une remarque, à nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission, donc soit sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, soit sur le site libreavoue.org. Alors, juste avant la pause, on parlait de, donc, du soutien politique et des nombreux courriers envoyé par Romain et Pascal pour obtenir un soutien, notamment l'évolution de ce projet, donc qui avait commencé au niveau du confinement, donc le 19 mars 2020. Et on parlait également donc du fait que vous soyez dans une salle équipée en 100% logiciel libre. Alors j'ai envie de vous demander, à partir de quand a commencé l'installation de cette salle équipée en 100% logiciel libre? Comment ça s'est fait? Où vous en êtes aujourd'hui? Pour quels usages? Beaucoup de questions.
Oui. On va peut-être repréciser un petit peu le contexte dans lequel on fonctionne.
Oui.
Au niveau ici, au lycée, on a un serveur qui, en fait, c'est un serveur Quartz. Donc, c'est un serveur qui est géré par la société Iris Technology. Et on a pu donc intégrer sur ce serveur, nous, nos postes Linux qui sont complètement intégrés au réseau pédagogique. C'est-à-dire qu'un élève qui se connecte sur un poste Windows ou sur notre poste Linux, pour lui, c'est exactement la même démarche. Et il retrouve son environnement de travail qu'il a habituellement. La région envisage en fait, de changer les serveurs des lycées. Et pour passer en fait, sur des serveurs qui sont, entre guillemets, full Windows. Ce qui va poser quelques problèmes pour intégrer nos machines sur ce serveur. Alors, le DSI de la région y travaille. Hein, on attend effectivement une solution pérenne pour pouvoir intégrer ces machines comme elles le sont actuellement avec le serveur Quartz. Mais on n'aura pas de solution pour nos nanocalculateurs. Ça, on nous l'a tout de suite dit, pas de solution pour intégrer ces nanocalculateurs dans cette structure. Donc là, bon, on cherche des solutions autres, passer par des box à côté, mais bon, ça sous-entend d'autres problèmes dans le filtrage des élèves sur le réseau, etc.
D'accord.
Ce qu'il faut.
Ouais, vas-y, Pascal. Romain.
Ce qu'il faut comprendre dans ce que dit Pascal, c'est qu'on est limité par la technique. En l'occurrence, ce serveur, il autorise ou pas la connexion des clients, c'est-à-dire les PC, Linux ou Windows, et là, on est en train de nous couper l'herbe sous le pied si on n'a pas de solution. Maintenant, on ne peut pas imaginer des postes Linux qui ne soient pas dans les mêmes conditions que les autres, parce que ça serait donné. On veut toujours que les postes Linux logiciels libres, on ait au moins le même niveau de qualité et d'usage que les autres postes, parce que sinon... On va retomber dans cette idée de dire que les logiciels libres, c'est moins bien. Il faut vraiment qu'on donne le même niveau de service. C'est ça le sens de la remarque. Et on doit continuer à fournir ce même niveau de service. Au niveau des usages, j'allais dire, quand on a démarré, on nous disait que c'était pas viable de faire ce qu'on fait maintenant depuis 4 ans. Moi, ce que je peux en dire, c'est qu'on a sous-titré le projet « La preuve par l'usage ». On l'a faite, la preuve par l'usage. Maintenant, si on vous dit qu'on ne peut pas travailler entièrement sous logiciel libre en EPLE, en établissement scolaire du second degré, c'est pas vrai. Vous vous référez à notre documentation et nous, on a prouvé que ça marchait bien. On a fait passer les épreuves de bac. Tu me demandais l'usage. Mmh. On a fait passer les épreuves de bac l'année dernière sur nos clients Linux. Les collègues viennent, ils utilisent les postes. Les élèves, en fait, au départ, on le disait les premières années, mais on le dit même plus aux élèves. Ils arrivent dans la salle Linux, même les secondes qui débarquent dans le lycée. Nos collègues s'inscrivent et c'est là où on sait une grande victoire parce que maintenant on n'en parle même plus. C'est intégré dans le fonctionnement du lycée. Au début on dit ah tiens il y a la salle Linux, j'ai peut-être y aller. Non, maintenant les collègues viennent, ils y viennent avec plaisir parce qu'en plus on leur offre des petites choses en plus. On a des ballons ergonomiques, des choses comme ça. On essaye de faire que la salle soit plus intéressante.
Alors quand tu parles d'épreuve du bac, c'est quelle épreuve du bac précisément?
On a fait passer, nos élèves de NSI, ils doivent passer une épreuve de programmation.
Donc en Python aussi, si je me souviens bien.
C'est du Python, c'est ça. Donc ils ont passé cette épreuve de programmation. Alors il y a besoin de Python, il y a besoin d'un lecteur PDF, des choses assez simples. Hein, mais on ne demande pas des choses extraordinaires en fait au niveau de l'éducation nationale pour passer les examens. Hein. Les machines, il n'y a pas besoin de choses vraiment importantes. Hein. Donc vraiment, on a une grande victoire sur l'usage. Là, on peut dire qu'on a fait la preuve est faite et terminée. Hein. Vraiment, on est très content là-dessus. Hein. Je pense que ce point du projet est terminé. Et on aimerait bien que ça serve de référence. Nous, par exemple, on s'est beaucoup servi de référence comme Nicolas Vivant et Chirol ou François Elie, hein, qui a bien travaillé à Angoulême aussi au niveau du logiciel libre. Ben, on voudrait que notre documentation elle serve au même titre que ces deux personnes-là.
D'accord. Alors pour donner un peu une idée un peu concrète, qu'est-ce que vous avez installé sur ces ordinateurs en fait ? Alors vous avez installé une distribution GNU Linux particulière. Quel logiciel vous avez installé ?
Ouais, on a mis une Mite hein, parce que d'une part elle trouve toujours tous les pilotes tout de suite. C'est dérivé d'Ubuntu. Hein. Elle a quand même un menu en bas à gauche. C'est quand même pas trop loin de la présentation classique de Windows. Donc pour pas trop dépayser les gens non plus, hein, c'est important. Et puis après on a installé, on a plusieurs dizaines de logiciels dessus. Hein. Je peux t'en donner quelques-uns. Alors évidemment, nous, on préconise Firefox. Hein, les post-élèves, il n'y a plus que Firefox dessus. Hein. Même si je tiens à préciser qu'on présente toujours les deux types de solutions. Hein. On présente des logiciels propriétaires et libres. On n'est pas dogmatique là-dessus. Il ne faut surtout pas l'être, je pense. Hein.
Bah, si bien, on ne peut pas complètement intégrer la totalité des PC. On ne pourrait pas. Il y a certains logiciels propriétaires qu'on utilise dans des sections techniciens supérieurs qui sont spécifiques et qui n'ont pas d'équivalent en Linux.
D'accord. Donc, est-ce que vous utilisez les logiciels, je dirais, libres que les gens connaissent le plus, c'est-à-dire donc du Firefox, du LibreOffice pour la bureautique.
Oui, tout ça.
Ouais, notre interpréteur. Alors Python, c'est libre. Notre interpréteur Python est libre.
Vous utilisez des outils pour faire de la retouche d'image,
on a OpenShop, on a KDN Live parce qu'on est amené à faire des vidéos. On utilise GeoGebra, c'est un logiciel de mathématiques. Filius pour faire du réseau. Anki pour gérer des cartes mémoire. On a Audacity, on a Xurnal pour les PDF. Enfin, on a SpeechNote qui est extraordinaire comme logiciel de translation vocale. On a GIMP. Enfin, j'ai pas tous les cités parce qu'on a vraiment c'est blindé en fait. Hein.
Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, c'est la seule machine dont vous êtes actuellement, c'est combien d'ordinateurs en fait ?
On a une vingtaine de PC qui sont 100% logiciels libres.
D'accord, ok.
Et Pascal a une salle hybride Windows Linux de son côté.
Voilà, parce qu'il expliquait effectivement pour les besoins en techno, il y a des logiciels très spécifiques qui ne fonctionnent que sur Windows ou Mac, je suppose.
Oui, enfin moi j'utilise une seule application pour faire un peu d'algorithmique qui est propriétaire, qui s'appelle Flowcode, mais... Non, sinon, moi j'ai deux postes, un poste Windows classique avec un poste fixe, et j'ai aussi une Pi 400. Et la Pi 400, c'est une des dernières cartes Raspberry qui est sortie. En fait, c'est un clavier ordinateur.
D'accord.
Ça a la forme d'un clavier, mais toute la carte mère est dedans, en fait.
Il y en a sur tous les postes. En fait, t'as du Linux sur tous tes postes.
Ok, d'accord. Voilà. Ah. Là, on parle de logiciels. Est-ce que vous avez essayé de sensibiliser les élèves aussi à d'autres types de ressources libres, par exemple l'usage de Wikipédia, OpenStreetMap, ou pas du tout ?
Si, complètement. Nous, on essaie de faire que ça. Et d'ailleurs, tout notre site, y compris les cours, parce que sur MathCode, il n'y a pas que la documentation du projet Nerd, il y a aussi tous nos cours qu'on a déposés en ressources éducatives libres. Mais on a une vraie chance avec la NSI, hein, cette nouvelle matière, où on met quand même en avant le côté ressources éducatives libres et logiciels libres. Il faut le savoir, c'est au programme de première d'utiliser un système d'exploitation libre. Ça a aussi été un levier pédagogique, celui-là, pour intégrer du logiciel libre au lycée. Là, c'est vraiment au programme, hein. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Utiliser un système d'exploitation libre.
Oui. Ce qui n'empêche qu'il y a pas mal d'élèves qui passent leur test Python sur un environnement totalement privateur.
Et oui, à cause des problèmes de serveur qu'on a évoqués, voilà. On ne peut pas jeter la pierre aux collègues. Hein.
Oui, non, mais bien sûr, non, là, je parlais en l'occurrence de certains élèves qui m'en ont parlé. Alors d'ailleurs, est-ce que vous avez une explication sur ce changement de volonté au niveau de la région par rapport à ce serveur ? Alors je précise que Quartz, c'est avec un K, si je me souviens bien.
C'est
KWARTZ. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi la région, service de la région, veulent changer ?
On n'a pas vraiment d'explication. Le DSI, il est venu. Hein, on l'a fait venir avec notre chef. On l'a reçu avec des gens de la région qui ont été très aimables. Hein, mais ils nous ont dit, nous, on est pour l'utilisation des logiciels libres. Hein. La région Hauts-de-France est à 100% pour l'utilisation des logiciels libres. Bon, on veut juste maintenant que ce soit suivi d'actes. et qu'on puisse conserver nos clients, mais on n'a pas d'explication claire. Quoi, c'était trop lent, on nous a dit que c'était lent, que ça faisait plus l'affaire. Bon, on n'a pas d'explication claire. Je veux quand même rajouter qu'il y a le ministère qui développe un serveur pédagogique qui s'appelle EOL, qui est complètement libre et qu'on pourrait utiliser gratuitement. C'est maintenu, c'est sécurisé, c'est pérenne dans le temps. Pourquoi ne pas utiliser EOL dans toutes les régions, hein? Moi, j'ai un peu un pavé dans la mare, mais... On a une solution. Oui, mais voilà, on a quelque chose qui est gratuit, qui marche bien, qui est maintenu. Pourquoi pas utiliser? Et en plus, ça autorise les clients Linux et Windows en un clic avec un script shell. Parce que là aussi, hein, on a quand même dû se battre avec Quartz. Hein, c'est nous qui avons programmé le script shell pour intégrer les clients Linux. Hein, on s'est amusé. Hein. On a fait un peu de technique. C'était pas. Je dis toujours de façon anecdotique, on a aussi des élèves. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On passe beaucoup de temps à faire des mails, des choses comme oui. ça, mais on doit bien s'occuper de nos élèves aussi.
Oui, parce qu'à un moment, votre métier, c'est d'être effectivement devant les élèves.
Voilà. Voilà, donc on aimerait un peu plus d'aide à ce niveau-là.
Ouais, donc
c'est
peut-être...
pas notre rôle de gérer le système d'information.
Ouais. Tout à fait. Donc un manque
ce
de
qui reste.
Oui, vas-y, Pascal.
Incompréhensible, en fait, c'est que EOL, donc c'est une solution qui est maintenue par le ministère, mais les régions restent décisionnaires. Et c'est eux qui s'occupent de l'infrastructure et donc qui choisissent. Les serveurs qui veulent mettre dans les établissements.
Okay. Les régions ont fait le choix d'EOL. Hein. Occitanie, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, ils sont sous EOL, par exemple.
Je retiens de ce pavé dans la mare que la région Hauts-de-France, présidée par Xavier Bertrand, fait un choix différent. Ce sont mes propos, hein. je les assume parfaitement.
Ouais.
Ça me fait penser. Là, on parle de la région, mais il y a aussi, suite au Covid, il y a le ministère de l'Éducation nationale qui a commencé à développer, en tout cas, utiliser des logiciels libres pour proposer une offre de services qui s'appelle apps.education.fr.
Bien sûr.
Alors, bien sûr, en fait, il y a plein de profs qui n'ont jamais entendu parler de ça. Je peux vous le dire. Donc, est-ce que je suppose que vous utilisez certains de ces services dans le cadre de votre usage?
On a fait une formation pour nos collègues là-dessus. Je veux juste peut-être revenir. Je reviens juste sur notre président de région, Monsieur Bertrand. On le remercie parce que Monsieur Motte et Monsieur Bertrand, ils nous ont soutenus à 200%. Monsieur
D'accord,
Bertrand, il nous a fait un courrier signé de sa main
D'accord.
où il autorise l'expérimentation. Je veux quand même que ce soit clair parce que mais vraiment, lui, il peut pas. Le président de région, il a pas la main sur tout. Et le DSI et les gens responsables, ils ont été à notre écoute aussi. Maintenant, on attend juste la suite. Faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà.
D'accord.
Alors pour revenir à Apps. Oui, on utilise Apps. D'ailleurs, tu le retrouveras sur Matcode. On a détaillé, c'est extraordinaire, apps.education. Il n'y a plus de raison d'utiliser des services de GAFAM quand on est prof. Je vois encore des adresses Gmail, des Zoom qui passent, des Teams. C'est aberrant. On a une ressource extraordinaire au niveau de apps.education. Vraiment, ça marche très bien.
Bah, le problème, comme je le disais, c'est que 80, peut-être 15% des profs ne le connaissent pas. Je précise que je connais pas mal de profs dans mon entourage. Et franchement, la communication, alors c'est pas vous qui êtes responsable, hein, mais la communication auprès des enseignants de l'existence de apps.education.fr est très, 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 très faible. Hein, donc c'est effectivement bien dommage. Alors, le temps passe super vite. Tout à l'heure, j'aimerais aussi qu'on parle, avant de parler un petit peu de ce que vous avez appris, des conseils que vous pourriez donner ou des suggestions. En introduction tout à l'heure de l'émission, il y a une personne qui a parlé des ordis du cœur, donc du reconditionnement. Dans le cadre de votre projet, j'ai vu qu'il y avait donc un sort de cercle vertueux des élèves vers les élèves, etc., qui est donc le reconditionnement de machines récupérées. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer ce fonctionnement?
C'est une des ramifications du projet Nerd. Hein, puisqu'on a récupéré des ordinateurs qui étaient destinés à la benne, en gros. Hein. Au début, par l'intermédiaire un peu du bouche à bouche avec les parents d'élèves, mais on va ici passer, je pense, à la vitesse supérieure et activer le RSE avec des entreprises pour récupérer des flux d'ordinateurs, que ce soit des portables ou des fixes. Et donc ce club informatique qui était installé dans un premier temps ici au fond de notre salle et qui a permis bien sûr d'acculturer un petit peu nos élèves à cette pratique de reconditionnement. Hein, les machines qu'on reçoit, elles sont démontées, nettoyées, elles sont remises un petit peu à jour. Souvent on remet un peu de mémoire, on change le disque dur pour mettre un disque dur électronique, un SSD. Et pour retrouver une machine sur laquelle on peut installer une distribution Linux adaptée à la performance de l'ordinateur.
Mais qui
et
fait
on
ça
retrouve un ordinateur complètement fonctionnel, alors qu'il était destiné à la benne.
Mais les élèves, c'est vraiment les élèves. Il y a un volet pédagogique aussi à ce club, même si vraiment il y a un côté solidaire, puisque les PC portables repartent chez nos familles en difficulté, qui ne peuvent pas s'équiper. Hein, on a un élève en NSI, par exemple, qui nous a dit « Moi, j'ai pris la spécialité informatique, mais je ne pourrais pas m'acheter l'ordinateur, c'est hors de question. Hein. Même 150 ou 200 euros, ça ne sera pas possible. » On équipe les familles en difficulté avec les PC portables et on équipe les écoles primaires qui ne peuvent pas s'équiper. Et là, c'est vrai qu'on a une déferlante de demandes avec les PC fixes. Là, on utilise PrimTux, hein, qui est une distribution Linux adaptée, créée par un professeur des écoles, Stéphane Dodon. Et d'ailleurs, la PrimTux, elle est aussi soutenue par Alexis Kaufmann à la DNE.
Oui, et qui est développé, je crois qu'ils sont dans l'Oise, les gens qui développent PrimTux, oui. Si je me souviens bien. Et on en a parlé effectivement dans l'émission, c'est une distribution. Finalement, ce qui se fait au lycée a un effet aussi positif vers le collège et les écoles primaires, en termes notamment de dotation de matériel informatique.
Ah oui, complètement. Et on a le double effet des logiciels libres. Non seulement on a des logiciels qui émancipent, hein, on va culturer nos élèves à l'alternative. Ils vont pouvoir installer sans contrainte de coût et de licence des logiciels chez eux, mais en plus Linux est plus léger que Windows, donc rien que le fait d'installer un Linux, ça fait repartir des machines qui étaient vraiment vouées à la benne. En plus on change on met un peu de RAM, on met un SSD, tout d'occasion, hein, ce sont des donations qu'on a eues, enfin c'est pas nous, hein, je tiens vraiment à préciser, ce sont les élèves, hein. Et c'est ça qui est important, voilà, donc on a ce double effet qui fait que les machines elles repartent 5, 6, 7, 10 ans, hein, en école primaire ou dans les familles. Et c'est un projet que c'est cette partie du projet, elle est plus facile à expliquer au grand public. Hein. À culturer le logiciel libre, déjà, quand on démarre comme ça sur le grand public, c'est compliqué. Là, écoutez, on équipe les familles en difficulté, les écoles primaires, avec des logiciels qui émancipent et qui vont permettre de faire progresser les gens en informatique. Bah, ça se vend tout seul. Hein. Là, c'est là-dessus où on a pris un peu de vitesse. Hein. Cette partie du projet à grandir rapidement parce que c'est consensuel et que ça se vend bien.
Oui,
y compris au niveau des collectivités, d'ailleurs.
Ben, ça leur évite aussi de faire la dotation en informatique.
On n'a pas de capacité industrielle. On s'est pris un petit tac il n'y a pas longtemps. Hein. Je me suis pris un petit tac sur Mastodon parce qu'on me disait « vous remplissez des missions de service public avec des élèves ». On ne remplit pas une mission de service public, on met les choses en avant. Et on n'a pas. Cette année, on a sorti entre 20 et 25 PC portables pour notre lycée. Donc tu vois, 1600 élèves, 25 portables, c'est très bien, mais ce n'est pas non plus extraordinaire au niveau du nombre. Mmh. Et on a équipé. Alors on a quand même équipé. On est sur 4 écoles primaires quand même.
D'accord.
Et puis c'est quand même très enrichissant. Un élève qui a reconditionné une machine et qui la donne à un de ses camarades qui en a pas. Ben voilà, pour lui c'est une expérience.
Les moments de remise des PC, c'est toujours un grand moment. Hein. Ouais. D'ailleurs, on a mis les photos. Hein, on prend les photos de remise juste les mains sur le site. Si vous voulez les voir sur Modcode.
Oui, j'ai vu ça. Ouais.
C'est toujours. On se dit qu'on n'a pas tout raté. Hein. Et c'est vraiment c'est impossible de réaliser ce projet sans les logiciels libres. Là vraiment,
ça, c'est clair.
Si on n'a pas ça, ben on est mort. Hein. On n'aurait même pas commencé.
Aller
trouver des licences Windows, puis de toute façon, les Windows qui font tourner ces machines-là ne sont plus mises à jour.
Exactement. Ok, d'accord. On va passer à la dernière partie de l'émission sur un petit peu ce que vous avez appris, puis aussi peut-être les suggestions que vous pourriez avoir à faire à des collègues. Donc déjà, quelles leçons vous tirez de cette démarche actuellement, donc qui a commencé en 2020?
On n'en tire que du positif et on n'y voit que des avantages. Vraiment, il y a ce côté solidaire, éthique, qui est fait qu'avec les élèves.
Et durable.
Ouais, il y a le côté aussi du développement durable. Donc vraiment, on n'y voit que des avantages. Je vois vraiment pas où on peut trouver une faille dans ce projet. Hein. Donc on coche toutes les cases. C'est simple, on coche toutes les cases avec ça. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que les autres établissements s'y mettent. Hein. On a fait des formations auprès des établissements du bassin pour que tout le monde s'y mette. Donc c'est vraiment le premier point, c'est qu'on a trouvé que des points positifs, hein, je peux pas te le dire autrement.
D'accord. Alors qu'est-ce qui a été le plus... quand vous allez voir des collègues, tout à l'heure tu parlais de la formation des profs, le soutien de la direction, tu disais que c'était le principal, enfin le point de démarrage.
Donc,
oui, quel conseil vous donnez en fait à vos collègues profs ou à d'autres personnes qui voudraient initier le même mouvement, que ce soit dans votre région ou ailleurs, hein?
Bah, qu'ils voient leur direction, hein, qu'ils en parlent. Voilà.
Et pas hésiter à nous présenter, j'allais dire comme carte de visite, mais montrer que ça fonctionne.
Ils ne seront pas seuls.
Ouais. Voilà. Alors, ne pas démarrer seul, voir sa direction en présentant les avantages, ne pas être dogmatique. On a quand même parfois des militants logiciels libres qui sont « c'est bien, il faut faire ça et c'est pas autrement ». Nous-mêmes, on s'est fait tacler par certains militants. Hein. Par exemple sur Modcode, j'avais pas remarqué, j'ai une API Google pour mes fontes,
ouais.
Mais je l'ai pas vu. Je me suis pris des missiles, mais on peut pas être comme ça si on veut que ça fonctionne. Donc, non, mais voilà. Non, mais
je vais dire pourquoi je rigole, c'est parce qu'en fait, je suis client d'un fournisseur d'électricité qui s'appelle Enercop, et sur leur site gestion de clientèle, ils avaient aussi exactement la même chose, sauf que moi, je suis un gentil geek, je leur ai signalé le problème en leur expliquant pourquoi c'était un problème, et en leur fournissant aussi la solution, deux solutions techniques différentes. Donc effectivement, on peut pas être à 100% parfait.
Ne pas viser le 100% parfait, ça c'est un très bon conseil que tu donnes. Y aller modestement.
Oui, tout à fait. Voilà, et aujourd'hui, par rapport à ce que vous dites aujourd'hui, les distributions logicielles libres sont parfaitement utilisables par le grand public. Il y a 15-20 ans, c'était pas le cas. Donc effectivement,
oui, il y a aussi des gens. Ah oui, alors ça, tu as raison de souligner, parce qu'il y a des gens qui sont encore sur les images il y a 20 ans, y compris des collègues du technique chez nous. Hein. J'ai un collègue qui m'a dit la ligne de commande, ça va bien 5 minutes. J'ai dit mets ta base de données un jour, s'il te plaît.
C'est clair que.
Vas-y, Pascal.
C'est pas les élèves. Hein. Les élèves, on les acculture très très facilement.
Ouais, c'est très facile. Ouais. Non, mais ça, c'est un point en conclusion. Les élèves, ils nous ont bluffés. Ouais. Ils s'emparent du système. Alors, ils sont surpris, mais une fois qu'on a dédramatisé, ils s'emparent du système avec une facilité.
Mais c'est vrai que l'image de la ligne de commande, c'est l'écran noir, soit en vert, soit blanc, reste encore beaucoup dans l'imaginaire des gens. C'est assez marrant, je sais pas pourquoi en fait. Les gens pensent encore qu'aujourd'hui, effectivement, pour utiliser un système d'exploitation libre, il faut forcément utiliser une ligne de commande, qu'il n'y a pas d'interface graphique, etc. Alors qu'en fait, depuis longtemps, ça existe. Hein, donc,
Exactement. Oui. Là, on n'a pas de réponse non plus.
Ouais. Et est-ce que vous êtes régulièrement, je suppose que vous êtes régulièrement contacté pour des conseils, pour des interventions
Alors, honnêtement, on est sur les rotules.
Ben oui, c'est le sens de ma question en fait.
ça commence à être. Alors, notre chef a été sympa, elle nous a mis une référente innovation pédagogique qui s'occupe d'une part de l'administratif maintenant parce qu'on ne peut plus se permettre de répondre à tous les mails, etc. Et surtout depuis les JDLE, tu sais, on a participé aux
Alors,
journées
JDLE,
du libre éducatif.
Voilà.
Ce sont les journées du libre éducatif. C'est initié par la DNE, c'est Alexis Kaufmann. Encore Alexis, remercie Alexis.
Alors, j'ai quand même précisé, parce que j'aime beaucoup Alexis Kaufmann, mais c'est quand même pas le seul. C'est, il initie beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres, il y a d'autres personnes
Bien
dans
sûr.
La direction de la direction du numérique éducatif.
Bien sûr.
Et donc, c'était des journées qu'on lui a Créteil. Et je crois que, je les ai suivies en ligne. Il y avait vraiment des présentations magnifiques, donc, dont certaines faites par des élèves. Et je crois que les vidéos seront en ligne à un moment ou à un autre.
Voilà. Alors, les élèves, c'était il y en avait des nôtres, des élèves justement, qui ont présenté le projet. Mais non, il n'y a pas qu'Alexis, pardon à tous les autres, mais je suis obligé, je résume les choses.
Oui, bien sûr. Et donc, à ces journées, donc, vous avez eu des échanges avec des collègues, c'est ça?
Oui, voilà. Oui, on a déjà participé aux deux premières journées.
D'accord. Et donc, vous leur avez expliqué que vous êtes sur les rotules et qu'il faut que d'autres personnes prennent la suite, c'est ça?
La première année, c'était à Lyon. Et on a présenté le projet Nerd dans la salle de presse. Et à la fin de la présentation, je ne sais plus comment il s'appelait.
On avait Cyril Colléat qui est venu nous voir, c'était le conseiller numérique de M. Blanquer à l'époque qui était venu nous voir. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on s'est fait connaître. Et là, on a Thierry Noisette, que j'aime beaucoup comme journaliste, qui nous a fait un article dans ZDNet. C'est bien. On commence à être connu. Mais nous on veut être connu pourquoi? Pour que le projet il soit un exemple inspirant pour les autres.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous voulez...
On veut des ramifications.
Voilà, c'est-à-dire que, parce que de toute façon, sinon, quand vous êtes déjà sur les rotules, sinon vous allez vous griller, et c'est quand même important de prendre soin de soi, sachant que déjà le métier d'enseignant est déjà l'un des métiers quand même les plus compliqués.
Oui, on l'a pas négligé.
Voilà, exactement. Oui, non, bien sûr, voilà, donc...
C'est notre premier métier,
Exactement, donc vous, ce que vous souhaitez, c'est à la fois, si j'ai bien compris, pérenniser le projet en interne, mais aussi qu'il essaime ailleurs, et que les gens, finalement... Et le fait que sur votre site vous publiez en fait toute votre documentation, vos scripts, etc., ça permet en fait aux gens de se l'approprier de façon individuelle sans forcément avoir à vous solliciter.
C'est ça. De toute façon, dans les autres établissements, on a besoin d'un référent et on a fait des tutos vidéo y compris. Enfin, vraiment, il faut aller voir le site.
D'accord. Ok. En tout cas, c'était passionnant et effectivement, il faut aller voir le site. Je vais juste finir par la question traditionnelle finale de l'émission. Donc, pour conclure, en 2 minutes chacun, quels sont les éléments que vous souhaitez que les gens retiennent de votre intervention? Qui commence?
Alors, j'y vais. Moi, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que la preuve par l'usage a été faite. C'est faisable, il n'y a que des avantages et on coche toutes les cases. Éthique, solidaire, durable, pédagogique. Donc, utiliser les logiciels libres en éducation, c'est une vraie solution qui doit être mise à côté des logiciels propriétaires. Il faut présenter les deux. En l'état actuel, on présente à 95% la solution propriétaire. Et ça, ça nous pose problème. C'est de notre devoir d'éduquer les élèves à cette alternative.
Ok, merci Romain. Pascal ?
Alors, ça a été comme une évidence. Le confinement strict a certainement été l'élément déclencheur. On ne peut pas, dans notre monde aujourd'hui, ignorer cette alternative au GAMAM. Acculturer les jeunes à la diversité numérique, qu'ils deviennent acteurs de leur environnement numérique, c'est là notre devoir, il en va de notre responsabilité en tant qu'enseignants. L'école doit être un lieu d'émancipation, donnons à notre jeunesse les bonnes cartes pour évoluer en pleine connaissance dans ce monde numérique.
Bah écoute, merci Pascal, merci à vous deux donc pour cette superbe échange et vous avez des félicitations sur le salon web. On vous dit ne soyez pas modeste, vous êtes formidable et je m'associe à ces messages donc notamment de Marie Odile et de Étienne qui dit chouette échange. Donc c'était Romain Debailleul et Pascal Bell donc du lycée Carnot de Bruay-la-Buissière, donc tous les deux professeurs à ce lycée, et le site sur lequel on peut retrouver tout ce que vous faites c'est j'ai un trou de mémoire.
Aidez-moi. Math-code.fr, math avec un S.
Voilà, math-code.fr avec math avec un S. Et je précise juste pour finir, pour les personnes qui s'intéressent à Python, un langage de programmation dont on a parlé tout à l'heure, que vendredi soir, donc à Paris, l'April, on a le plaisir d'accueillir une réunion de l'association francophone de Python, à la présence d'un des auteurs de Python qui a fait un livre programmé en Python, débuté en Python, je ne sais plus en tout cas. Donc c'est vendredi 26 avril à partir de 19h, et pour avoir les informations, adresses et tout, vous allez sur april.org. Donc vous êtes évidemment les bienvenus, que vous connaissiez ou pas Python. Donc merci Romain, merci Pascal, je vous souhaite une belle fin de journée, puis à bientôt.
Merci à vous.
Merci à vous.
Alors nous allons passer, non, nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous poursuivrons avec l'interview de la musicienne Rose Azerty par Joseph Garcia. On verra si j'ai bien prononcé parce que je ne sais pas, il y a un certain nombre d'air. Et donc nous allons écouter une de ses compositions, Dispo Disco, donc par Rose Azerty. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
La tête. merci d'être tous. J'ai la fièvre. Faut destituer tous ces bourgeois. J'ai aussi grave envie de bouger mon cul. Sentir tes sueurs sur mes doigts. Pour le discours de mon même force du chaos, aller danser sur les autos, car les jeux du porno ont ouvert notre laptop, que les mixing sur la fin de vie, le setup, le prototype, le pendant qui se trompe, une custom sur ta moto, pour le discours, pour le discours, troisième boucle, du feedback, de l'art noise qui claque, on bouge la tête.
Nous venons d'écouter Dispo Disco par Rose Azerty. Alors, on parlera de la licence après dans le cadre de l'interview, parce que j'avais une question à Joseph. Il m'a dit que vous allez en parler.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous allons poursuivre par notre sujet suivant. Alors, nous reprenons nos vieilles habitudes. Ça faisait longtemps de sujets courts de format interview. Donc, l'interview donc, de Rose Azerty par donc, Joseph Garcia. Alors, je vais préciser que Joseph, c'est l'émission Les Contes, c'est du sérieux. L'émission du conte et des cultures de transmission orale. C'est chaque deuxième dimanche du mois.
C'est ça.
À 20h30. Voilà. Et donc, Joseph est à la réalisation de l'émission. Et donc, Joseph et Rose, ben, je vous laisse pour l'interview.
Eh ben, merci beaucoup, Frédéric. Je vais commencer par une petite genèse de cet entretien avec Isabella de l'April. On a fait la mise à jour de la base de données des musiques libres à diffuser sur Libre à vous. Et on est tombé sur Rose Azerty, une artiste qui met sa musique dans le domaine public, une artiste francophone, et en plus qui habite la région parisienne. Donc, on a rapidement décidé de l'inviter. Bonjour, Rose Azerty.
Salut.
Déjà, est-ce que tu veux te présenter puis nous préciser combien de R il y a dans Rose?
Il y en a plus que Marcel Duchamp, ça c'est sûr. Donc moi c'est Rose Azerty, j'ai fait de la musique libre de droit dans le domaine public vivant depuis maintenant 12 ans. J'ai produit 250 albums sous cette licence environ, sous différents alias, j'en avoir une vingtaine. Et là, le plus récent, en tout cas, c'est Rose Azerty que j'utilise. Et il y a donc 5 R à Rose Azerty. Donc un petit clin d'œil à Rose, c'est la vie, qui en a que deux, malheureusement, de Marcel Duchamp. Voilà.
Tes musiques, elles sont dans quel style? Quelles sont tes influences aujourd'hui?
À l'heure actuelle, c'est un peu le chaos. Ça a toujours été le cas. Enfin, quand on écoute le premier album, on se rend compte que c'est pas très différent de maintenant. Les musiques que je compose à l'heure actuelle, elles sont essentiellement autour de la pratique de la guitare bruitiste, du bruit, des musiques électroniques, des musiques acoustiques, électroacoustiques aussi. Et les influences, en fait, c'est tout ce que j'écoute en règle générale. J'écoute beaucoup de noise et beaucoup de musique bruitiste en règle générale, beaucoup de hardcore, beaucoup d'électropunk. Mais à la base, je faisais surtout de la guitare rock. À un moment, j'en ai eu marre. J'ai décidé plutôt de faire de la folk. Et puis après, je me suis intéressé au fichier MIDI et à l'utilisation de la musique assistée par ordinateur. J'ai acquis aussi un saxophone à un moment. Donc, j'ai fait pas mal de trucs comme ça. Et puis après, ça a été surtout les musiques des pratiques musicales expérimentales inspirées par Fluxus, donc l'espèce de courant artistique des années 60. Ouais, c'est le chaos. C'est essentiellement très chaotique. Les seules choses que je fais pas, c'est surtout de l'orchestral parce que j'ai pas les bons outils informatiques pour ça. Ça va être le reggae et le jazz. C'est essentiellement des cultures que je connais pas du tout et j'ai pas spécialement envie de m'approprier ce genre de culture-là. Et parce qu'il y a des gens, ils font ça bien mieux que moi. Voilà.
Mais oui, c'est vrai qu'il y a, il y a un effet de chaos quand on se renseigne sur toi. Je suis tombé sur chezmonplaisir.bandcamp.com. Donc c'est là où j'ai découvert la musique que tu fais, mais aussi bah, rapidement de lien en lien sur loyaltyfreakmusic.com et sur rosazerty.neocity.org. Qu'est-ce que c'est un petit peu la différence de ces... Qu'est-ce qu'on trouve sur les différentes plateformes ?
Loyalty Freak Music, c'est un peu le hub de tout le bazar.
C'est là où on doit aller pour te découvrir.
C'est un peu ça, ouais, parce qu'il y a pas, je fais pas que de la composition musicale. J'écris aussi des articles sur le néocitisme, et je vais y revenir. Le Bandcamp, c'est essentiellement un service d'hébergement audio qui me permet de faire de la conversion wave, FLAC, MP3 très facilement au prix d'un 50 centimes l'album, et voilà. Donc en gros, les gens peuvent acheter ma musique sur Bandcamp et la streamer comme ils le veulent, et sur le site Loyalty Freak Music, on peut la télécharger gratuitement au format MP3. Si on veut un autre format, on lâche 50 centimes quoi. Et sur le néocétisme, j'ai écrit des articles surtout sur les genres musicaux qui m'intéressent, mais aussi récemment, parce que j'ai pas mal écrit sur les qu'est-ce que c'est que de faire de la musique libre de droit et à quels problèmes on se confronte, et notamment mon plus grand ennemi juré, Content ID, mais j'en ai un autre là dans le viseur qui est Audible Magic aussi. Là j'ai envie de les secouer très fort.
Alors qu'est-ce qu'ils t'ont fait Audible Magic et Content ID?
Alors Content ID, Audible Magic, en fait c'est des je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est des outils développés d'abord par Google pour Content ID. Audible Magic, c'est un autre service un peu similaire. C'est un service, du coup, qui envoie des notifications, des strikes à des utilisateurices ou à des créateuristes de vidéos, essentiellement sur YouTube, quand on parle de Content ID, pour usage soit de vidéos ou de musique qui sont copyrightés, et qui leur dit bon bah vous avez pas le droit de monétiser votre vidéo parce qu'il y a du contenu copyrighté, ou sinon vous avez juste pas du tout le droit de la diffuser. Et moi c'est un problème parce que il y a des personnes qui récupèrent ma musique, et notamment sur la musique qui est sur Free Music Archive, ils la récupèrent, ils mettent Content ID dessus, et ensuite ils récupèrent la monétisation. En gros, ils copyright ma musique libre de droit et ils récupèrent la monétisation de toutes les personnes qui utilisent ma musique comme ça. Et c'est compliqué parce qu'il faut aller contacter des services de distribution qui activent Content ID, et souvent ils sont assez invisibilisés par toute la couche d'absence de méta en fait autour de ce genre d'outils. Donc ouais, il me casse un peu les pieds parce que il faut savoir bah du coup que les licences Creative Commons, les seules choses, on va dire la seule chose qui est en commun sur toutes les licences Creative Commons, c'est la clause de non-exclusivité de la licence, et ce qui veut dire que toute personne a le droit d'utiliser ces choses sous licence Creative Commons, et que personne n'a le droit d'avoir l'exclusivité totale du produit. C'est-à-dire que personne ne peut posséder ma musique. Même moi, je peux pas la posséder au final.
Oui, ça, c'est le choix que tu fais, c'est de mettre ta musique dans le domaine public, même si on le voit pas sur Bandcamp.
Tout à fait, mais c'est parce que Bandcamp n'autorise pas de mettre la licence CC0. Et ça, c'est un problème pour moi. Du coup, je la mets en CC BY parce que c'est la plus libérale de toutes les licences. Mais sur mon site internet, je mentionne que c'est du CC0, et sur Free Music Archive aussi, c'est du CC0.
C'est la question qu'on se posait avec Frédéric. Comment désannoncer les musiques, puisqu'ici, on aime bien.
Alors, je précise que effectivement, on annonce les licences des musiques, et effectivement, moi, j'avais été sur le Bandcamp, donc je voyais du CC BY. Puis après, sur ton site, je vois du CC0. Je me dis, c'est quelle licence? Et j'en ai parlé à Joseph qui me dit on va en parler pendant l'émission.
Voilà. Donc c'est CC0 dans l'idée. Après on est il n'empêche que c'est droit français en fait qui passe par-dessus, donc du coup il y a des droits inaliénables, et notamment celui de l'attribution, et mais en vrai j'en ai un peu rien à foutre de l'attribution de toute manière. On part du principe que c'est du CC0.
on va dire c'est proche, enfin c'est l'équivalent de domaine public entre guillemets, sachant que voilà, comme tu le dis, en France, il y a quelques trucs qui se rajoutent par rapport à ça.
Tout à fait. Voilà, mais c'est en tout cas c'est ce qui se rapproche le plus du domaine public et tout en restant vivante.
Et donc dans les différentes plateformes sur lesquelles on peut écouter ce que tu publies, on voit différents noms que tu héberges. Est-ce que c'est tous des pseudos à toi ou est-ce qu'il y a d'autres artistes qui participent?
Sur Loyalty Freak Music, c'est à 99% que des choses que je fais en solo. Il y a quelques alias où il y a des personnes qui interviennent, comme Adeline Adrenaline avec ma camarade Red Marmotte. Mais sinon, après, c'est sur d'autres bandcamp qui sont pas hébergés, enfin, qui sont pas réindexés sur Loyalty Freak Music. J'ai des groupes avec d'autres personnes, mais sinon, c'est essentiellement mon problème. Oui.
D'accord. Est-ce que t'as des projets à venir là?
Essentiellement des concerts. En ce moment, je fracasse beaucoup de guitares les unes sur les autres en concert, donc venez me voir. Sinon, je fais des concerts d'électropunk où je gueule juste dans un micro au bord du Larsen et on peut écouter Extrêmement PD de toi ou Dispo Disco. Pas spécialement de musique enregistrée en ce moment, mais c'est plus du développement de jeux vidéo et essentiellement sur des plateformes, enfin des logiciels comme Beatsy qui est open source aussi. Faites des Beatsy, c'est vachement bien.
Est-ce que t'as un concert bientôt à Paris?
J'en ai un à Bagnolet le 20 juin.
Ah ben on annoncera. Tu m'enverras l'URL.
Oui.
Voilà.
Tout à fait. Oui. Oui, ça va être fun.
Donc oui, Beatsy, c'est quoi?
Beatsy, c'est un logiciel qui se travaille sur navigateur et qui permet de faire des petits jeux vidéo extrêmement minimalistes en format HTML. C'est du JavaScript, mais en gros, il y a une interface qui bidouille tout. Et voilà, bah, le logiciel est open source. Il y a plein de petits scripts qu'on peut rajouter pour améliorer ou en tout cas enhance Beatsy, enfin l'agrandir d'une certaine manière. Et il y a une communauté qui est très, très chouette, extrêmement gay et essentiellement de gauche.
Et en musique, est-ce qu'il y a des logiciels libres que tu utilises ou est-ce qu'on est plutôt sur Mac?
Non, c'est terrible. Moi, je suis sur du Windows. J'utilise Reaper, par contre. Hein, j'essaie d'être sympa. Au moins, je fais ce genre de truc. Reaper, c'est vachement bien. Mais la version Linux, elle est toujours un peu en bêta. Il y a plein d'instruments virtuels que j'utilise qui sont pas utilisables sur Linux. Mais promis, un jour, j'essaierai Ardour. Mais là, c'est compliqué.
Il y a pas tout acceptable. Hein, on peut.
surtout ici. À la radio, effectivement, on n'est pas à 100% logiciel libre au niveau des outils informatiques de la radio, donc
ouais, oui, c'est jamais tout facile.
Voilà.
Mm-hmm. Ah oui.
Joseph, il te reste 3-4 minutes si tu veux. Enfin, Joseph et Rose. Hein.
Ah ouais, d'accord.
Maximum. Sinon, j'ai une petite question, le temps qu'il réfléchit à sa prochaine question. T'es fan de jeux vidéo? Parce que j'ai écouté quelques musiques où il y a quand même, ça rappelle beaucoup les jeux vidéo.
Alors, j'ai eu une phase où en tout cas j'y jouais beaucoup. Il y a des jeux qui m'ont vachement influencé, mais c'est surtout que j'aime bien faire de la musique pour des jeux vidéo. C'est un milieu qui m'a un petit peu embauché et qui autorise parfois à mettre les musiques sous licence Creative Commons. Donc c'est assez chouette. Il y a un jeu vidéo notamment qui a été développé par Nikki Casey, qui est un développeuse canadienne qui fait tous ses jeux vidéo sous licence Creative Commons 0. Du coup, elle cherchait quelqu'un pour faire des assets sonores aussi sous licence Creative Commons 0. Et c'était chouette, hein, jouer à Adventure with Anxiety, c'est gratuit sur navigateur. Bref, c'est vachement chouette. Et c'est des esthétiques, des sonorités que j'aime bien en règle générale. Le chiptune et compagnie, voilà, essentiellement.
Oui, c'est ce qu'on entend bien dans ta musique, le chiptune, la noise, on l'entend aussi.
Moi, j'ai bien entendu, ouais.
J'avais proposé un titre et tu m'as dit, oh, c'est normal, Frédéric,
Non, ce que je t'ai dit, c'est que si on le diffuse sur l'FM, il faudra annoncer avant qu'il n'y a pas de souci de diffusion, que c'est la musique. C'est parce que c'est vrai que, voilà, c'était juste, voilà.
C'était un peu noisy, donc finalement, on a trouvé d'autres titres qui seront, qui conviennent mieux aux oreilles sensibles.
Peut-être, oui.
Mais en tout cas, moi, je précise que j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai écouté. Voilà, donc franchement, félicitations et merci.
Ouais, c'est très, 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 très qualitatif. Et puis, le fait que ce soit en français aussi, c'est quelque chose de très d'inhabituel. Souvent, on a des artistes qui prennent l'anglais un petit peu par défaut. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié, j'apprécie beaucoup écouter ce que tu fais. Ouais.
Merci, j'essaye. C'est pas évident, mais il faut.
C'est bon pour vous ?
C'est bon.
Ouais,
c'est
en tout cas, je plus sois ce que vient de dire Joseph sur les, parce que les licences, les musiques sous licence libre ou domaine public ou autre en français, c'est très très rare et c'est important et voilà, et j'ai, voilà. Et je conseille aussi de regarder les vidéos, voilà. Je mettrai le lien notamment de la vidéo de Extrêmement PD de toi qu'on a diffusé tout à l'heure parce qu'elle est vraiment géniale cette vidéo.
Le travail de Sophia Versavo.
Voilà. Franchement, très très bien, quoi. Écoutez, donc, merci. Donc, c'était l'interview de Rose Azerty par Joseph Garcia. On approche de la fin de l'émission. On va terminer par quelques menus annonces. Alors, dans les annonces, je vais les réduire vu le temps. La principale, Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris, donc dans nos locaux à Paris même, au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement, donc une réunion radio ouverte. Vous pouvez venir avec apéro participatif à la clé. C'est l'occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions, et notamment de découvrir ce nouveau studio qui sent bon le bois avec la nouvelle grande table. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. La prochaine soirée rencontre aura lieu le vendredi 3 mai 2024 à partir de 19h30. Et en plus, vous pourrez ce jour-là assister en direct à une émission spéciale autour des émissions de Cause Commune qui parlent d'informatique, dont évidemment Libre à vous. Donc j'animerai l'émission, mais sur Libre à vous, c'est ma collègue Isabella, dont tu as parlé tout à l'heure, Isabella Vallée, qui interviendra. Je relaie aussi une formation logiciel libre, éthique, protection des données et droits d'auteur sur Internet à Paris du 27 au 30 mai 2024, qui est proposée notamment via Uniformation. Une branche de la formation, mais qui est ouverte à toute personne, quelle que soit votre branche professionnelle, et c'est notamment proposé par les CMEA, donc qui sont déjà intervenus dans l'émission Libre à vous, donc c'est l'occasion d'en apprendre plus donc sur le logiciel libre, l'éthique, la protection des données et aussi la notion de droit d'auteur sur Internet et donc les licences Creative Commons. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Jean-Christophe Becquet, Romain de Bailleul, Pascal Bell, Rose Azerty, Joseph Garcia. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Élise. Alors je précise qu'elle ne souhaite pas qu'on donne son nom. C'est pour ça que je précise Élise, simplement, voilà. Et qui en plus a assuré avec cette nouvelle régie, avec notamment ces petits boutons qui permettent de régler les casques qui sont juste en dessous de la table du studio. J'espère que tu as bien apprécié aussi cette nouvelle configuration. Voilà, elle me confirme. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcast, donc Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et également Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Vous trouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes remarques et questions sont les bienvenues. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites aussi également connaître la radio Cause Commune, la voix des possibles, avec ses belles émissions sur un domaine très varié, notamment les émissions musicales. Il y a plusieurs émissions musicales. On peut à la fois faire des émissions, alors Panel by Max, c'est des musiques urbaines. Il y a aussi Bud sur les musiques, c'est plutôt le métal, etc. Et je crois qu'il y en a une troisième, je me souviens plus du nom. Alors il y a aussi Construy sur le punk, effectivement. C'est Bud, dissonance cognitive, c'est Bud, voilà. Et Construy sur le
métal.
Ouais, et je me souviens plus du nom. Voilà, on n'est pas
on n'a pas révisé.
Et pourtant, voilà, on n'a pas révisé. Et pourtant, on écoute, hein, parce que j'ai écouté Construy dimanche, notamment, qui recevait John Livingstone pour parler notamment d'Internet. Voilà, et de l'usage par les punks d'Internet. Donc, je finis la désannonce de l'émission et la clôture pour être à l'heure. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 30 avril 2024 à 15h30. Nous vous confions à un nouveau café libre pour débattre autour des actualités du logiciel libre. Ce sera sans doute ma collègue Étienne Gonu ou ma collègue Isabelle Avani qui animeront l'émission. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 30 avril. Et d'ici là, portez-vous bien.